À Rencontre spirituelle, aujourd'hui, un réformateur. Un réformateur d'avant la réforme protestante, puisqu'il est mort en 1519, et c'est un franciscain remarquable du nord de la France, Jean Vitrier. Vitrier, comme les gens qui fabriquent des vitres, vitriers. Et c'est vraiment un réformateur intransigeant, mais dans le bon sens. Et parfois un petit peu violent au début de sa carrière, si on peut dire, l'impatience d'un jeune réformateur, mais il n'a jamais été en dehors de ce qu'il fallait faire, je crois, sauf peut-être une petite fois ou deux dans des sermons qu'on retrouve. Mais dans l'ensemble, il est remarquable, et c'était un homme qui a été gardien de son couvent à Saint-Omer, tout à fait dans le nord de la France, près de la Belgique, là, Saint-Omer. Et il a eu une grande influence sur Erasme, qui le considérait beaucoup, ils étaient amis. Erasme qui avait comme meilleur ami Saint-Thomas More en Angleterre. Qui est un des plus grands penseurs de son temps, qui était un religieux d'ailleurs, un prêtre, qui malheureusement ne disait pas souvent sa messe, Erasme, mais Jean Vitrier lui était très fidèle. Oui, Jean Vitrier, ce franciscain, est né en 1456, et il est mort en 1519. Vous serez peut-être un peu surpris que je ne vous parle pas du bienheureux François de Laval, mais je vous en ai parlé en 1996, une émission d'une heure, et j'y reviendrai certainement l'an prochain, à l'occasion de l'an 2000. Jean Vitrier, on voit son nom parfois Voirier ou d'autres noms, mais c'est Vitrier finalement, est né donc à Saint-Omer. C'est dans le Pas-de-Calais, disons à 60 kilomètres d'Arras, sur une petite rivière, un fleuve, comme on dit en France souvent, qui a un drôle de nom. Ceux qui font des mots croisés connaissent le nom de cette rivière, c'est la rivière A.A. A majuscule, A minuscule. Ça pourrait intéresser les membres des A.A. de savoir qu'il y a une rivière qui porte ce nom. C'est tout à fait donc au nord de la France, comme je vous ai dit, près de la Belgique, hein. Il est né donc dans un milieu de bonne bourgeoisie, des drapiers qui fabriquaient donc des draps, des tissus. Et selon Erasme, lui, ils ont été bien, ils ont été très amis, puis Erasme a beaucoup écrit dans différentes épîtres, différentes lettres sur son admiration pour Jean Vitrier. Et il est entré, Jean Vitrier dit Erasme, de bonne heure. En moinerie, comme on disait dans le temps. Donc, il est entré jeune, il n'a pas eu le temps de faire le fou, comme on dit. Et puis, il est entré sans doute au couvent franciscain de Saint-Omer, chez lui. Il séjourne à l'université de Louvain, ensuite, dans ce qu'on appelle la Belgique aujourd'hui, en qualité d'arcien, c'est-à-dire pour obtenir une maîtrise sart, et peut-être comme étudiant à la faculté de théologie. Entre 1486, donc 30 ans, 30 quelques années, 1486-1488, il devient gardien, c'est-à-dire, si vous voulez, supérieur, comme on dit dans les autres communautés. Les franciscains disent gardien du couvent des franciscains observants de Namur. Il contribue donc à l'essor de ce couvent. Et il cherche la paix, il contribue donc à l'apaisement de toutes sortes de querelles qui existent à cette époque-là entre les franciscains conventuels puis les franciscains observants. Ben, c'est pas des grosses querelles, mais il essaie de calmer les choses. Le frère Jean Vitrier, mène trois grands combats. C'est un homme qui lutte pour la purification de la foi selon l'Évangile. Et j'aime beaucoup ça. La pureté de la foi selon l'Évangile. C'est pourquoi je tenais à vous en parler, parce que c'est vraiment un grand homme. Hein. Ignoré. Probablement que bien des franciscains ignorent même son existence, et j'essaie de le révéler, parce qu'il y a plein de gens dans l'histoire de l'Église qui ont été oubliés comme ça, qui sont des gens remarquables. Et c'est sous sa conduite qui sont marqués parfois par l'intransigeance réformatrice, de cet homme, ça arrive des fois. C'est un réformateur un peu intransigeant. Comme j'ai dit, c'est un mystique parfois légèrement violent, mais en tout cas, c'est tout un réformateur que ce grand franciscain. Et le premier combat se produit en 1498 à Tournai. Il a donc 42 ans. Où ce réformateur observant tonne contre les maisons religieuses qui ne sont pas réformées. Ça l'énerve de voir des chanoines qui sont paillards, qui boivent, qui font n'importe quoi, et autres gens d'église qui ne se conduisent pas bien à l'époque. Hein. Vous savez que c'est avant la réforme protestante, c'est une époque dure, une époque difficile, une époque un peu décadente dans l'église catholique. Et puis, il tonne aussi contre quelque chose qui l'agaçait beaucoup, c'est le culte superstitieux des saints. On était à l'époque dans certains milieux très superstitieux à l'égard des saints. Ça tournait presque des formes d'idolâtrie et de grandes superstitions. Et la faculté de théologie de Paris censure finalement 16 propositions de ce Jean Vitrier, assez arbitrairement d'ailleurs extraites des sermons, et la persécution commence contre lui. On ne sait s'il se justifie ou s'il se soumet publiquement à ses décisions. En tout cas, on le retrouve en 1500, à 44 ans, gardien de l'important couvent de Saint-Omer. C'est donc dire qu'il a dû se soumettre, il a dû accepter, ou on a dû l'excuser et le comprendre. C'est un mystique quelque peu égaré dans l'administration. D'accord, il est gardien, mais il est d'abord un mystique. Il s'accommode mal des compromissions qu'il doit faire, étant donné qu'il est gardien. C'est inhérent à sa charge, et à l'occasion de la prédication de l'indulgence jubilaire de 1500, qu'il juge simoniaque, parce qu'à l'époque, l'indulgence se vendait, et c'est le trafic des indulgences qui va tant irriter Martin Luther, qui lui sera aussi un grand réformateur, mais malheureusement un réformateur qui aboutira dans la séparation de l'Église. Les commissaires essaient d'acheter son silence quand ils s'attaquent à ces aspects de l'argent dans l'Église. Ils lui offrent un don en argent pour la construction de la nouvelle église de son couvent, mais il ne reste pas silencieux. Il est plus ou moins excommunié et deux fois cité devant le tribunal diocésain. C'est un intraitable franciscain, c'est un homme de grand courage finalement, qui continue de prêcher. Et l'affaire n'a pas de suite parce qu'on se rend compte, qu'il est sincère. Hein? Mais il y a une troisième bataille, et c'est la réforme du couvent de Sainte-Marguerite à Saint-Omer en 1501. Elle est décrite par Erasme dans une de ses lettres, et elle est consignée aussi dans les archives judiciaires de la ville de Saint-Omer. Donc, le frère ou le père Jean Vitrier, franciscain, qui cherche à chasser 8 sœurs récalcitrantes de ce qu'il appelle un lupanard, n'y va pas de main morte, hein, qui est devenu leur couvent. Il est victime d'une tentative d'assassinat, le pauvre. On n'y va pas de main morte, mais ça arrive aujourd'hui. Vous savez que Mgr Elder Camara a été sujet à une douzaine de tentatives d'assassinat, et c'est ainsi d'un bout à l'autre de l'Église, sans parler, quand je vous ai parlé de l'Église russe, des centaines de milliers de prêtres et de gens courageux qui ont été assassinés dans les goulags pour supprimer l'Église orthodoxe qui tenait tête à des abus de ce gouvernement communiste athée de la Russie. Notre Jean Vitrier est toujours quelqu'un de spécial, c'est tout un personnage. Il est en somme héritier aussi de Joachim de Flore. Comme plusieurs franciscains à l'époque de tempérament prophétique, comme le frère Martin de Valence, qui était un visionnaire du couvent Saint-Gabriel de la province d'Estrémadure. Oui, le frère Vitrier a ressenti l'appel à la conversion du Nouveau Monde, surtout le Mexique, hein, comme moyen de hâter la fin du monde en ce troisième et dernier âge, où, selon les théories apocalyptiques de Joachim de Flore, théorie qui était relayée par les franciscains spirituels d'Italie, là, devait être propagée partout, comme l'évangile éternel, celui de l'esprit. Je m'explique. Ça peut paraître compliqué, c'est... Pour Joachim de Flore, c'est l'évangile de l'esprit, c'est-à-dire la période de l'Esprit-Saint. La période ou l'ère du Père, c'est la période de l'Ancien Testament. Les 1500 ans qui venaient de s'écouler, c'était la période du Fils. Et là, on entrait dans la période de l'Esprit-Saint. Il y a des gens qui parlent comme ça aujourd'hui, vous savez. C'est un peu curieux, mais ça revient. Et le frère Vitrier est un témoin privilégié, voire l'inspirateur principal d'une espèce de fin du monde missionnaire dans la France du Nord, où il habite. Il pense à la fin du monde, mais... Érasme rencontre Vitrier, le fameux Érasme, en 1501-1502, lorsqu'il se rend à Saint-Omer, où Vitrier est gardien dans le Pas-de-Calais, là. Et gardien du monastère, du couvent des franciscains. Et puis, il y a une approche amicale entre ces deux hommes, et c'est pas toujours facile, mais elle existe, l'approche amicale. Et au fil des mois, les réserves d'Érasme tombent devant cette mystique un peu particulier, mais qui est très intéressant. Et pendant près d'un an, Érasme approfondit au contact de ce père gardien la doctrine de Saint Paul que John Collett, un grand ami d'Érasme, lui a révélée en Angleterre. Surtout que le gardien, le moine franciscain Vitrier, fait découvrir Origène à Érasme. Et Érasme sera très influencé par la pensée d'Origène, qui se met à étudier avec ferveur les homélies et le commentaire sur l'épître aux Romains. Et en 1502, le franciscain Vitrier doit abandonner sa charge de gardien. On raconte un incident du Jean Bonneau refusé. Probablement quelqu'un aurait offert au monastère un Jean Bonneau et Vitrier l'aurait refusé. Érasme a finement caricaturé cette espèce de délicatesse spirituelle un peu exagérée de Vitrier, parce qu'il était pas si vieux encore, il n'a pas mûri. Puis d'autres maladresses de gestion aussi, qui ont fourni des prétextes à cette démission de Jean Vitrier. Mais les motifs principaux en sont des pressions extérieures et qui sont particulièrement celles d'un dominicain, Jean Vasseur, qui accuse le frère Jean Vitrier de fraterniser un peu trop avec les hérétiques qui commencent à circuler dans le mépris qu'ils font des cérémonies ecclésiastiques catholiques. Avec des docteurs, puis le mépris aussi qu'il porte à l'égard des docteurs scolastiques, parce qu'il veut un retour à l'écriture sainte. Le mépris aussi qu'il porte à l'égard des indulgences qui sont vendues. Alors, le dominicain s'attaque à ça. Mais Vitrier, lui, est un défenseur d'une saine doctrine catholique. Il y a aussi la malveillance puis la rancœur de ses confrères franciscains qui sont jaloux du rayonnement du père Vitrier. Ils le trouvent intolérable à cause de leur propre médiocrité. Et c'est ce que raconte l'abbé André Godin, qui est un grand spécialiste de Jean Vitrier. Et le père gardien s'efface de bon cœur. Au moins jusqu'en 1507, il remplit humblement ses tâches de confesseur. C'est un homme de foi, hein? Et d'humilité. Et il remplit ses tâches de prédicateur auprès des Clarisses de Saint-Omer, avant d'être finalement relégué comme aumônier d'un obscur couvent de religieuses à Courtrai. Puis il y termine sa vie, une vie cachée, là, de 1516 à 1519. Oui, c'est une vie courageuse, une vie très courageuse. Je m'explique en deux mots, parce que de son importante activité de prédicateur très appréciée par Érasme, on peut retrouver ça dans les textes d'Érasme, il ne reste plus que 16 propositions qui ont été condamnées de la prédication qu'il avait faite à Tournai. Il y a l'exposition admirable sur le sermon des Béatitudes de notre Seigneur, plusieurs fois imprimé d'ailleurs, qui a servi de livre de méditation à beaucoup de gens. Et enfin, une vingtaine d'homélies, dont 8 lui sont explicitement attribués, qui sont très belles. et tout ont une homogénéité, c'est un rempli de la même spiritualité. Et les homélies du recueil de ce saint homme qui était Jean Vitrier sont précédées d'une méthode d'oraison dont je vous parlerai. Et la méthode de ses sermons s'est ponctuée de prières. Il prie tout en prêchant, et prie avec un esprit biblique, et très affectif, c'est très appuyé. Puis on y trouve aussi une anthologie de pièces traduites de la liturgie romaine. Il s'appuie sur la liturgie, sur les textes qu'on trouve dans les missels. Et l'ensemble est intitulé « Manières pour savoir prier Dieu », recueilli dans les sermons de notre père confesseur. Et savez-vous que cet ouvrage, l'abbé André Godin l'a publié en 1971 sous le titre de « L'homélière de Jean Vitrier ». Ça a fait sensation il y a une trentaine d'années. Et ça a fait beaucoup, beaucoup de bien à beaucoup de gens qui l'ont parcouru, c'est évident. Il s'agit d'un montage édité pour offrir, même aujourd'hui, une nourriture spirituelle, en particulier aux Clarisses de Saint-Omer, qui sont toujours là, qui sont héritières des anciennes Clarisses pour lesquelles il avait prêché. Je viens de vous dire que l'abbé André Godin est un Français remarquable, c'est un des prêtres les plus remarquables de France, les plus brillants. Nous l'avions d'ailleurs interviewé à rencontre à la télévision de Radio-Canada. Eh bien, aujourd'hui, on peut dire que l'homélière, c'est-à-dire le choix des homélies du franciscain Jean Vitrier, édité en 1971, publié sous le titre de « L'homélière de Jean Vitrier » par cet abbé André Godin. Mais cette homélière, savez-vous, on peut dire que c'est le spécimen le plus remarquable d'une littérature franciscaine destinée également via le tiers-ordre aux élites chrétiennes de notre époque. C'est dire toute l'importance, même aujourd'hui, de ce franciscain qu'il faut connaître. Il a un style absolument éblouissant, inspiré de l'Esprit-Saint. Sa cour de danse est superbe, il y a des expressions, c'est en ancien français, mais c'est de toute beauté. On doit également au frère Jean Vitrier plusieurs traductions originales, décrits des pères de l'Église auxquels il voulait revenir plutôt que de rester pris dans des petits traités un peu susurreux, là. On n'en connaît actuellement que deux de ces traductions. Saint Ambroise, le traité du bien de la mort. Il y aura une émission bientôt sur le fait de mourir dans la joie. Le traité du bien de la mort. Que c'est beau comme titre, hein? Il y a eu trois éditions, 1509, 1511, 1517, et puis ça s'est répandu aussi. Les gens aimaient beaucoup cette traduction du texte de saint Ambroise, un des pères de l'Église les plus fameux, comme vous savez, à Milan. Puis, il a traduit de saint Grégoire le Grand, ce grand pape bénédictin, commentaire sur le Cantique des Cantiques, qui est conservé en deux copies manuscrites aux bibliothèques municipales de Lille et de Cambrai. Mais à l'encontre des critiques qui estiment le peuple en grand danger s'y lit autre chose que les ineptes récits de sornettes ou les récits de moines, dit Erasme. C'est Erasme qui dit ça, là, que le peuple, selon certains, serait en grand danger s'il lit autre chose que les ineptes récits de sornettes ou les récits de moines. Il y a du peu de respect pour les moines de l'époque, hein. Alors, Erasme, il loue son maître Jean Vitrier pour ses morceaux choisis dans les grands et saints auteurs du début de l'Église. Il correspond, dit-il, exactement à ce que furent sa vie et sa parole. Donc, traducteur patristique, donc des pères de l'Église, ce franciscain Vitrier est un précieux témoin. Oui, de la diffusion de l'idéal humaniste de retour aux sources chrétiennes dans les milieux urbains cultivés à la veille de la réforme protestante. Si on l'avait davantage écouté, et écouté quelques autres, peut-être que la réforme protestante n'aurait pas eu lieu, que notre Église serait toujours une. Ainsi, par sa prédication toute remplie de citations bien choisi de l'Écriture sainte, il brise avec la méthode scolastique de la théologie des universités de son temps. C'est par son œuvre de vulgarisation de grands textes de la tradition préférée au récit du Moyen-Âge, du merveilleux chrétien, que Vitrier répond aux grandes requêtes spirituelles neuves là, qui travaillent les âmes de son époque. On veut de la substance et il le donne. C'est un mystique passionné que Jean Vitrier. Oui, ce franciscain de Saint-Omer a une puissante et violente personnalité de prophète. Mais compte tenu de leur citation hors contexte, la violence verbale des 16 propositions de 1498 condamnées par les censeurs de Paris correspond assez, un peu peut-être, à la violence même physique des fois dont il fait preuve à l'occasion pour mettre au pas les couvents dissolus de sa ville. Dans sa prédication vraiment outrancière, ce jour-là, à Tournai, il est allé trop loin et on peut déceler des tendances curieuses avec une négation du corps, une sorte de misogynie radicale. Je prends comme exemple la 16e proposition condamnée. J'aimerais mieux être homicide que de coucher avec une femme. En d'autres termes, il ne veut pas manquer à son vœu de chasteté totale. Alors, il aimerait mieux être homicide, c'est-à-dire il aimerait mieux tuer quelqu'un. C'est insensé, on dit pas des choses comme ça. Il avait dû boire un peu trop de vin ce jour-là, ça n'a pas de sens. Hein? D'autres propositions s'en prennent à la paillardise, dit-il, de la musique d'église qu'il trouve exagérée à son époque. Trop de chants qui viennent des tavernes. Hein? Et le besoin magique qu'il rejette de voir le si consacré. C'était nouveau et il trouve que c'est de la dévotionnette. Et pourtant, 10 ans plus tard, le dernier sermon de son recueil revient sur le sujet en des termes beaucoup plus mesurés, heureusement. Il semble, en vieillissant, qu'il comprend mieux certaines choses qui l'irritaient, comme justement ce besoin que les gens ont de voir le si consacré. Sur la foi, qui est la vertu centrale, ce grand prédicateur de Saint-Omer qu'est Jean Vitrier est intarissable. On peut tirer de ses sermons, de ses homélies, un petit traité de la sainte foi catholique, comme il l'appelle, la sainte foi catholique. La foi vient de la prédication, dit-il, et d'une lecture attentive et méditée de la Bible. S'agit-il de croire un point particulier du dogme, par exemple l'Eucharistie? Le chrétien, dit-il, doit faire son mieux de prier et de hanter l'Écriture et sermons afin que la foi lui soit infuse. Je lis le texte ancien, hein, parce qu'il parle une langue différente un peu de la nôtre. Dans son homélie sur la justification, le frère Jean Vitrier analyse le contenu de l'acte de foi, puis il décrit deux sortes de croyants. C'est amusant ce qu'il dit. Il y a la première sorte, hein. C'est celle des fidèles qui ne perçoivent pas, dit-il, la vertu révélée dans l'Évangile. Leur foi est comme engourdie, formaliste. Cela peut tenir à leur manque, dit-il, d'appétit spirituel pour la parole de Dieu, puis aussi à leur mollesse à venir au sermon. Ou bien, ajoute-t-il, chez les habitués des sciences séculières, les sciences du monde, les nouvelles, les sciences séculières qui, sans l'Évangile, n'ont que erreur à nous proposer. Alors, cela peut tenir aussi, dit-il, à une connaissance intellectualiste et orgueilleuse des Écritures. Hein? On a vu cette série d'émissions, je ne sais pas si vous avez vu ça tard le soir, à Télé-Québec, ça a duré, trois semaines, là, des tas de grands savants sur l'Écriture qui nous parlaient, puis finalement, la plupart, c'était tellement intellectualiste et peut-être un peu orgueilleux. Oh, c'était ennuyant, finalement. Heureusement qu'il y en avait qui étaient très bons. Et les croyants de la seconde sorte, dit-il, par rapport à la foi, là, au contraire, ont accepté d'écouter, dit-il humblement, auprès d'un maître spirituel qui entend le livre, qui comprend le livre des Écritures, et le martèlement des mots « vie nouvelle », alors ça revient souvent dans ces sermons « vie nouvelle », c'est le martèlement de ces mots-là dans la narration, souligne à quel point, pour ce franciscain Jean Vitrier, cette foi est au départ d'une radicale nouveauté de vie. Mais autant est exaltée la foi justifiante, autant s'imposent les œuvres, dit-il. Oui, les œuvres. Il faut que ça se mette en pratique. C'est le signe de la nouvelle vie que Dieu lui-même accorde par sa grâce. Et le résultat, qu'est-ce que c'est, dit-il? Notre homme est devenu nouvelle créature, car il a nouvelles œuvres. Les œuvres font foi de vie. Alors, pour Jean Vitrier, franciscain réformateur, la Bible est un aliment pour la foi. Oui, elle est reçue dans l'Église, et c'est dans l'Église qu'elle doit être reçue, malgré toutes sortes d'abus et de turpitudes sévèrement condamnées par ce grand prédicateur réformateur. L'Église catholique enseignante reste bel et bien la gardienne du dépôt révélé, et il n'est pas question pour lui de faire une réforme qui, en dehors de l'Église, et qui séparerait l'Église. Ce n'est pas ce genre de réformateur. Et voilà que une des forces portantes de la théologie mystique développée dans l'homiliaire de Jean Vitrier, ce franciscain dont il est question aujourd'hui, est incontestablement le recours à l'Esprit-Saint. C'est une des forces portantes de cette théologie mystique. Recours à l'Esprit-Saint, c'est ce qu'on demande depuis le dernier concile. Eh bien, il le faisait il y a 500 ans. C'est le franciscanisme spirituel qui anime la vie de Jean Vitrier. Pour célébrer la Pentecôte, la plus grande fête de l'année, comme il dit, le fruit de toutes les œuvres de Jésus-Christ, c'est ce qu'il dit, et il ajoute, et un baume au cœur de ceux qui l'entendent bien. J'aime bien sa façon de parler. Un baume au cœur de ceux qui l'entendent bien. Eh bien, Jean Vitrier déploie toutes les ressources de son art oratoire. Magnifique, hein? C'est à l'Esprit Saint, dit-il, qu'il appartient en propre de remettre les péchés. Et ne sont vraiment religieux ou clairs, sinon ceux qui le sont de la Pentecôte, c'est-à-dire du Saint-Esprit. C'est ce qu'il dit. La diffusion de la foi à travers le monde est également son œuvre. Il en parle longuement. Rien n'échappe donc à son emprise. Et le frère Jean Vitrier décrit cette force véhémente à l'aide d'un épisode biblique qu'on trouve dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 2. Vous savez, de même qu'Élisée, j'ai déjà parlé de ça, a reçu le manteau et le double esprit de son maître Élie montant au ciel, le double esprit, de même les apôtres, et nous, après eux, qui devons être des apôtres, tous, dans notre petit milieu, comme dans un milieu un peu plus grand, auquel on peut être appelé tout à coup par hasard, sur nos derniers jours. Comme moi, je ne sais pas comment ça se fait, ce qui s'est passé dans ma vie, je suis tout surpris de ce qui m'arrive. Eh bien, nous, après eux, après les apôtres, nous avons à implorer cette même faveur, de recevoir ce manteau puis ce double esprit. Le double esprit, c'est quoi, dit-il? Ça concerne d'une part le domaine de la prière et de la sanctification personnelle, c'est-à-dire que nous sommes engagés à prier, pour prier, et chercher à obtenir de devenir des saints. C'est pas de l'orgueil, c'est Dieu qui nous le demande. Soyez saints, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Puis de l'autre, le double esprit, de l'autre côté, c'est le secteur de la charité fraternelle et de l'apostolat. Avez-vous écouté l'émission hier après-midi avec M. Charon? C'était beau. Ah! Il y avait ce jeune Lucien, là, qui s'occupe des gens de la rue. Le cœur m'a tourné à l'envers en écoutant cette émission. C'était si beau. Si beau. Ah! Ça me rappelait mon pauvre fils qui était un itinérant, qui est mort il y a 5 ans, le 8 de ce mois-ci, dans quelques jours. À un moment donné, Jean Vitrier, il brode dans ses sermons sur les noces mystiques. C'est l'un des thèmes les plus exploités de la littérature spirituelle. Hein? Les noces mystiques, le mariage de l'âme avec Dieu. Alors, Vitrier voit dans l'incarnation le mariage de quoi? De l'humanité, de notre Seigneur, avec la souveraine sagesse. Il est la sagesse éternelle. Hein? Et voilà le premier noble mariage. Il a uni l'âme de Jésus-Christ à la divine et, dit-il, inscrustable majesté du Créateur, auquel mariage n'y a de confusion ni division quelconque. C'est ce qu'il précise. selon les termes mêmes du Concile de Chalcédoine. De cette union procèdent, dit-il, toutes les autres, car, joue les guillemets, il n'est point venu faire ce mariage pour lui seul, mais pour se marier à beaucoup d'autres et les sauver. C'est charmant, je trouve ça sympathique. Il est venu nous marier, quoi. Le développement somptueux et réaliste sur les noces de l'âme serait à citer. C'est beau. Il contraste avec bien des présentations affadissantes du thème dans l'histoire de la spiritualité. Lui, c'est un grand prédicateur. Quel grand prédicateur que ce franciscain. Il y a 500 ans, il dessine la vivante image du Verbe incarné. Écoutez bien, jaloux des âmes qu'il aime d'un amour excessif et exigeant. Il dit qu'on se marie à lui par le croire, c'est-à-dire par la foi totale. Ce sont des épousailles dont le fruit sera la vie éternelle à laquelle l'âme croyante doit se préparer et tendre ardemment avec zèle. Puis, il n'arrête pas de parler comme ça. Hein. C'est extraordinaire. Avec le jaillissement des formules dont il a le secret, là, le frère Jean Vitrier, dans un sermon au peuple, le dimanche des Rameaux, ramasse ainsi sa théologie de la rédemption. Il dit « La passion n'est que victoire pour prendre exemple. » Écoutez bien, pour prendre exemple. Je m'explique. Il n'insiste pas sur son refus du dolorisme médiéval. On insistait beaucoup sur la douleur du Christ, comme j'ai fait, moi, le vendredi saint dernier. Il n'insiste pas non plus sur la présentation, à la façon de saint Jean, le glorieuse du mystère rédempteur, qu'il a fait dans son long sermon du vendredi saint. Ce sermon est entier construit de façon à mettre en lumière l'aspect déjà pascal de chacune des récits qu'il fait. Je veux surtout souligner ici ce que j'appellerais l'exemplarisme appuyé de sa doctrine. Oui, le caractère exemplaire de la passion du Christ. Il dit, c'est une des principales raisons pourquoi Jésus est mort pour nous, afin, dit-il, que nous puissions le suivre en portant après lui notre croix. Puis en deuxième lieu, il dit, et pour nous racheter. Alors, imaginez, à cette époque, mettre en avant l'exemplarité que donne Jésus comme motif premier de la passion, n'a pas, semble-t-il, dit André Godin, l'abbé André Godin, d'équivalent dans la tradition chrétienne. Ça n'a pas d'équivalent. C'est nouveau, nouveau, nouveau. C'est là, d'ailleurs, une des raisons les plus pertinentes pour attribuer l'exposition, ces textes-là, à Jean Vitrier. Le principal collaborateur de Lefebvre d'Étaples et professeur à la faculté de théologie de Paris, Jos Klichtov, à qui ce livre a été soumis en 1515 pour examen par deux chanoines de Tournai, qui n'étaient pas contents, pointe cette formulation étrange, inusitée, puis il note que l'exemple est seulement cause accessoire, secondaire, il remet les choses en place. Hein? Parce qu'en bonne théologie, le sacrifice du Fils de Dieu a pour finalité quoi? Mais pour finalité principale, la rédemption du genre humain. C'est toujours ce qu'on dit. Hein? Et l'affaire a donc eu une suite à l'occasion de l'interrogation par un inquisiteur, une femme, qu'on pourrait dire disciple de Vitrier et qui appréciait énormément sa prédication, Vitrier maintient énergiquement et non sans ironie son point de vue. Il dit, car le Christ a accepté de mourir pour nous, non tant pour nous racheter que pour nous enseigner, par son exemple, à vaincre le monde et la chair et la rédemption, la libération, la sanctification, c'est de vaincre le monde et la chair. Et donner toute la place, évidemment, à la très sainte Trinité dans notre cœur. C'est ce qu'il veut dire. Il y a autre chose chez le frère Jean Vitrier. L'exposé du thème classique de la filiation adoptive, puis la divinisation du chrétien, qui a pour cadre le sermon qu'il fait sur l'épître du quatrième dimanche après la Pentecôte. Il y a sept feuillets qui forment le premier point de l'homélie, Puis c'est un bel exemple du génie organisateur de ce moine franciscain Jean Vitrier. Le rythme du discours, on dirait que c'est une œuvre de musique. C'est extraordinaire. C'est comme une partition à deux lignes mélodiques contrastantes, là, puis pourtant unies. Et de fait, il y a deux élévations. Il dit « Oh, c'est si grand misère !» Parce qu'il y a des exclamations dans ses sermons. Il crie sa foi. Hein. « Oh, c'est si grand misère !» Puis le feuillet suivant, il dit « Ah, que c'est grande chose !» Et ça scande la marche de la pensée, ça souligne l'émotion, la progression d'un double thème, là. L'amour filial, écoutez bien, l'amour filial que nous avons dans notre cœur, là, ça appelle l'amour du Père, qui ne cesse de lui répondre, dit-il. Quand on aime Dieu, un petit peu, juste un petit peu, l'amour du Père se déverse dans notre cœur, hein. C'est ça qu'il prêche. La première exclamation, là, « Oh, c'est si grand misère !» est le point culminant d'une longue énumération qui a détaillé l'expérience de quelques passionnés de Dieu, lesquels ont mérité de recevoir le témoignage de l'Esprit, puis un nouvel exemple exprime cette réalité décisive. La mort vient seulement fixer le chrétien dans l'état qui fut habituellement le sien durant sa vie. La mort vient fixer seulement le chrétien dans l'état qui a été habituellement le sien durant sa vie. L'amour de l'homme, la persévérance, ça appelle l'amour de Dieu. Le témoignage en lui du Saint-Esprit, le Paraclet. Assurance d'un repos, puis d'une paix immense. Il dit aussi certitude infaillible que le Saint-Esprit procure à la volonté et à l'intelligence, bref, à la totalité de la personne. Mais pour les auditeurs terre à terre, il s'est élevé peut-être un peu trop haut, ce pauvre franciscain Jean Vitrier est peut-être rendu dans des sommets. Alors pour les auditeurs terre à terre, qui veulent toujours vérifier et sont rebelles aux formulations théologiques, il faut le retour au concret. Mais cependant, il y a une différence. Plus haut, le prédicateur analysait la démarche de l'homme dans le commerce d'amour père-enfant. Hein, le Père, Dieu le Père, et nous, ses enfants, il y a un commerce d'amour, il y a une démarche de l'homme là-dedans. Et maintenant, il s'agit de rendre palpable, de matérialiser en quelque sorte la réponse divine. Et ainsi s'explique le choix significatif du saint le plus chaud à son cœur, saint François d'Assise, puisqu'il est franciscain, qui prie Dieu. Et il dit, comment saint François prie Dieu? C'est surprenant, vous allez être surpris. Tout désolé, les saints qui sont tout désolés en quelque anglais obscur, quelque coin obscur, plein de souris et de rats qui viennent ronger son habit. C'est sympathique. Ils ont des choses dans ce temps-là qu'on n'a plus aujourd'hui. Hein. Par là s'achève finalement un exposé qui a été d'un bout à l'autre remarquable par son mouvement, sa vie intense, sa fermeté doctrinale, sa saveur populaire. En somme, ce qu'il voulait dire, c'est que les saints prient même quand les souris et les rats dévorent leur habit, ils restent en présence de Dieu. En d'autres termes, on doit rester en présence de Dieu même quand on est distrait par toutes sortes de petites choses. Il faut revenir à Dieu, revenir à notre prière, se repentir un peu de notre distraction et de demander à Dieu de nous maintenir dans la ferveur. Ce frère Jean Vitrier parle aussi de la prière, comme je viens de vous dire. Les indications sur la prière sont particulièrement nombreuses, puis il y a une définition qui en est donnée au début, et la voici. « Oraison, proprement, est de raconter tout à fait à Dieu, ainsi comme on parlerait à son fidèle ami, toutefois en la crainte filiale, dit-il. » Un dialogue amical, finalement, qui pourtant n'abolit pas les distances entre le Créateur et sa pauvre créature, comme il dit. La prière ne s'embarrasse pas de cadre ni de méthode. Le schéma proposé pour Jean Vitrier est d'une extrême souplesse. Et la première chose consiste à s'humilier, puis vient ensuite un appel à la miséricorde divine, à formuler de cœur et de bouche ou seulement de cœur, dit-il, pour pas déranger les autres. Et les exemples de prière réunissent la plupart des attitudes spirituelles, hein, adoration admirative et respectueuse, gratitude dans l'action de grâce, la contrition, parce que le péché nous en sert, puis attend l'amour pardonnant, hein, on attend que Dieu nous pardonne. L'imploration aussi selon les expressions multiples de la demande. Et la Bible est utilisée pour Jean Vitrier avec autant de naturel et d'élégance que dans les sermons. Vous savez, les gens qui disent que la Bible, c'est Martin Luther qui a commencé ça, ben ça existait avant Martin Luther, comme vous le voyez. Le tout est formulé en un style soutenu, mais sobre. Ça clarifie toutes les choses. Il est admirable. Oh, j'aime beaucoup ce Jean Vitrier. Je suis content de vous le faire connaître. Et j'espère que vous avez appris un peu à l'aimer jusqu'ici. Jean Vitrier, ce franciscain que j'aime beaucoup, quand il parle de la prière, quand il est un peu vieilli, il renonce, n'est-ce pas, aux invectives agressives de son jeune temps qu'il a eu à tourner, une seule fois à tourner, là. Il continue quand même de mettre en garde contre les dangers d'une prière idolâtrique. Hein. Et il prétend qu'on ne peut pas avoir recours à la Sainte Vierge comme à une idole. Il faut avoir la foi obéissante. Une foi obéissante. Pour Jean Vitrier, il y a parmi les catégories de priants, bien évidemment les religieux, pour qui l'oraison de cœur net est un exercice parfois laborieux. Il dit que les gens du monde, les religieux de son temps, les gens du monde, dit-il, il y a 500 ans là, les gens du monde devraient bien aussi s'employer à prier Dieu purement. Et il arrive en effet, dit-il, que, je lis le texte ancien, qu'une simple personne, et sans lettre, arrive par oraison de cœur net à Dieu à plus grande chose que ne font souvent les bien grands clercs. Et il s'explique là-dessus parce que la raison en est simple, c'est le Saint-Esprit qui assure l'excellence de la prière humaine. Donc une Bernadette Soubirous, une petite voyante de Fatima, une petite fille, toute simple, une Sainte-Germaine Cousin, arrive à des grands élans d'oraison. Elle gardait des troupeaux, Germaine Cousin. Non seulement le Saint-Esprit apprend à prier, mais encore il prie en nous par des gémissements indicibles. Il rappelle ces vérités fondamentales de notre foi. Et sans lui, sans le Saint-Esprit, par contre, toutes prières sont vaines, dit-il, et indignes d'être de Dieu, oui, de Dieu entendu. Elles sont indignes d'être entendues de Dieu, dit-il, si c'est pas l'Esprit-Saint qui prie en nous. Enfin, les deux conditions d'une bonne prière, selon Jean Vitrier, franciscain, sont la foi et la persévérance. Il insistait beaucoup là-dessus. S'adressant particulièrement aux jeunes Clarisses de Saint-Omer, dans le nord de la France, comme je l'ai dit au début de l'émission, ben, il leur rappelle la nécessité de beaucoup prier le Saint-Esprit. En effet, dit-il, les grands dons ne sont point donnés tout en un coup au commencement, mais après qu'on a longuement prié Dieu. Et cette prière incessante est une quête, hein? On doit, dit-il, chérir Dieu avec la même attention passionnée que les Maries mettaient à chercher le ressuscité de Pâques. Vous savez, les Maries qui sont allées au tombeau. Ce ressuscité de Pâques dont Vitrier a coutume de faire mémoire en chacun de ses sermons chaque dimanche. Il en parle toujours. Le Christ ressuscité, le Christ ressuscité, le Christ ressuscité. C'est par une inspiration en tout point identique que l'on scrute le sens des Écritures, dit-il. Il revient toujours à la Bible, la Bible, la Bible. Toutes ces démarches, en fin de compte, convergent vers un seul et même but. L'homme aspire au face-à-face définitif. Et il dit, c'est très beau, « Ô mon Dieu, quand verrai-je et apparais-je devant ta belle face tant désirée ?»« Ô mon Dieu, vous avez dit à votre serviteur et ami Moïse, « œil ne me verra et vivra. » »« Et sire, je te prie que je meure afin que je te voie. »« Tibi dixit cor meum, exquisivite facies mea. » Il appelle la foi sa face. Quel merveilleux franciscain que ce Jean Vitrier. Il y a un irrépressible désir de Dieu qui porte la prière du chrétien, dit-il, qui creuse en lui l'attente des noces spirituelles, le goût de la gloire de Dieu qui surviendra en lui par l'esprit et enfin suscite l'aspiration au martyr qui animait de fait Vitrier puis ses disciples qui rêvaient d'être martyrs au Mexique. De telles brûlures de l'âme. Son homélie, publié en 1971 par l'abbé André Godin, porte intensément témoignage. Depuis que le Saint-Esprit est venu échauffer le cœur des hommes, beaucoup d'entre eux désirent, comme saint Paul, dit-il, être déliés de ce corps de l'homme pour être avec Jésus-Christ. Comme l'apôtre André, ils appellent de leur vœu la croix longuement quise, ardemment désirée, dit-il, et finalement, à mon grand désir préparé. Alors la nostalgie de l'ère des martyrs, cette attente active de la mort, sont le plus souvent évoquées en termes vibrants. C'est un écho toujours vif de cette tension eschatologique dont saint Paul et Origène témoignent dans leurs écrits. Quand on martyrisait les chrétiens, dit-il Jean Vitrier, la foi était si bonne, charité était si grande au monde, que l'on était avec notre Seigneur en ce jardin des Oliviers. Nous ne souffrons point martyr maintenant pour Dieu. Oh, je crois bien que nous n'aurons point cette grâce, car je ne sais point si notre foi serait grande assez. Néanmoins, souffrons-le par désir. Ayons le désir du martyr, quoi. Enfin, il n'est pas sans importance de souligner que ce charisme du martyr apparaît à Jean Vitrier comme un substitut ou un équivalent du traditionnel vœu d'obéissance. Et voici un autre point soulevé par le frère Jean Vitrier, c'est que nous sommes tous des pèlerins, parce que son sermonnaire ne cesse de le redire, la vie parfaite à laquelle clercs et laïcs sont appelés, ça consiste à se tenir comme, dit-il, vrai pèlerin en ce monde et cheminant toujours en la foi de notre Seigneur. Et le tout est développé en métaphores somptueuses, en cette superbe et en images jaillissantes, cosmiques, le Christ sur le monde, on croirait d'ailleurs de Chardin puis saint Paul, où tendrement humaine, il parle de la femme lactante qui donne son lait, ou en travail d'enfant. Et puis, son homilière, cette homilière-là fait revivre un homme, un milieu débordant, oui, débordant d'une intense spiritualité puis d'un mysticisme brûlant. On s'explique qu'à leur contact, la vie des races, comme je vous ai dit au début, ait pu en être transformée. Si vous voulez une cassette audio de cette émission sur ce grand franciscain malheureusement ignoré par tout le monde, ou presque, vous téléphonez à Marc-Alexandre, code régional 514-374-3785, 374-3785. 8-5, même à 11h ce soir après la reprise, 374-3785. Les commentaires se font si vous avez aimé ou pas aimé. Vous téléphonez à Radio Ville-Marie, 382-3913 ou à 1-877-668-6601. Je remercie Jean-Pierre Noisieu pour la belle musique et Nicolas Duskin pour la très bonne mise en onde. Et je vous invite tous à être à l'écoute demain pour un grand poète hindou, Rabindranath Tagore, mort en 1941, prix Nobel de littérature, homme très près du christianisme. Vous verrez, c'est un grand poète, Rabindranath Tagore. Lundi sera question de Job. Ici Raymond Beaugrand-Champagne, qui vous rappelle que dans l'écriture aujourd'hui, il est dit intervient à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fait des reproches, encourage, mais avec une grande patience et avec le souci d'instruire. C'est ce qu'a fait Jean Vitrier. Au revoir.